L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Thibaut de Saint-Maurice. Thibaut de Saint-Maurice, c'est une personne que je ne connais pas, en l'occurrence, qui m'a contacté sur LinkedIn après le premier Volant avec Georges Mohamed Chérif. Et qui a cette spécificité d'être un philosophe, qui intervient sur France Inter, entre autres. Moi, je suis hyper intéressé par la philosophie, et du coup, quand on a commencé à parler de Volant, je lui ai proposé d'en faire un aussi, parce que je trouve que quand on parle de technologie et de marketing, c'est vraiment important de retourner, en particulier dans un monde qui change, comme c'est le cas aujourd'hui, de retourner à des sciences... Des sciences humaines, voilà, comme la philosophie. Et en particulier, il y a un sujet qui, moi, me touche personnellement, c'est la déconnexion et la surconnexion, dont je suis une victime volontaire, puisque je suis... malheureusement hyper connecté. J'ai fait une interview dernièrement où on me demandait c'était quoi le premier truc que je faisais dans la journée, et malheureusement le premier truc que je fais de manière très honnête, c'est de regarder mon téléphone avant même d'aller aux toilettes.
Et le dernier truc le soir.
Et le dernier truc le soir avant de me coucher. Alors j'ai fait un truc, c'est que j'ai sorti le téléphone de ma chambre, qui est un acte de résistance. On va parler d'acte de résistance. Et j'aimerais avoir, toi, ton avis, ou en tout cas ta lecture, et de toute façon c'est une discussion, sur cette surconnexion, déconnexion en même temps.
Ben, c'est certain qu'on peut en parler maintenant de façon tout à fait établie. On est dans une époque de connexion évidente pour deux raisons. La première, c'est que ben il y a une sorte de maturité des technologies et puis des flux et des data qu'on peut transférer, etc. Et la deuxième raison, c'est que cette connexion, elle est maintenant individualisée, personnalisée. C'est-à-dire avec les téléphones intelligents, là, les smartphones qu'on a chacun dans notre poche. En fait, c'est comme si la toile qui nous enserrait, elle nous touchait chacun individuellement. Alors qu'avant, finalement, les systèmes d'intégration sociale ou politique ou culturelle étaient finalement avaient toujours du mal à toucher les gens de façon très individuelle. Mmh. Voilà, on était plutôt touché parce qu'on appartenait à une communauté ou parce qu'on appartenait à une corporation, etc. Aujourd'hui, le téléphone portable, c'est finalement la possibilité pour chacun de nous d'être connecté individuellement, personnellement, en permanence.
Donc c'est un esclavagisme volontaire de l'intégralité de la population.
Ça, c'est un constat. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que le fait qu'on soit connecté, ce soit bien ou mal. Ça, après, on peut porter un jugement là-dessus. Mm-hmm. Pour des tas de choses. Et on est hyper content d'être connecté. On a une information qui est délivrée sans trop de délai. On sait quand est-ce que nos amis sont en retard ou pas. On sait ce qui se passe dans l'actualité de son métier. On est aussi assez au courant. Voilà, il y a des bonnes raisons et il y a des avantages à cette connexion. Et puis d'un autre côté, on en vient aussi à regretter parfois d'être trop connecté, surconnecté, hyper connecté.
Et du coup, cet esclavagisme volontaire, c'est une notion qui est récente, enfin, qui est liée au digital ou qui existait avant ?
Alors, l'idée d'une servitude volontaire, de la possibilité d'une servitude volontaire, non, c'est quelque chose d'assez ancien. Étienne de la Boétie, le grand pote de Montaigne, voilà, donc on est au XVIe siècle, écrit un discours sur la servitude volontaire, dans lequel il s'interroge et il se demande pourquoi est-ce qu'on peut considérer que d'un côté on est des êtres libres, et de l'autre côté on accepte une tyrannie politique. Mmh. Voilà. Et donc il s'agit de penser ça, il s'agit de penser cette difficulté-là. Et un peu plus tard, Tocqueville, par exemple, qui compare les systèmes démocratiques en France et aux États-Unis, dégage ce qu'il appelle la tyrannie douce de la majorité. Et ce qui est une façon pour lui de remettre en question, par exemple, le fait que la démocratie soit le régime de liberté absolue. Non, il y a aussi une tyrannie à l'intérieur de la démocratie, tyrannie douce de l'égalité, on veut tous être pareils, et puis tyrannie douce de la majorité, c'est-à-dire qu'une fois que la décision est majoritaire, eh bien, elle s'impose à tous. Et puis, un désinvestissement des activités de la sphère publique, on s'intéresse de moins en moins à la politique, on participe de moins en moins, à chaque fois qu'il y a une élection, on signale toujours le taux d'abstention. Mmh. Bon. Et ce qui fait que, en un sens, ça contribue en fait à nous asservir doucement. C'est pas que la police est derrière chacun de nous, hein, c'est doucement, voilà, on est asservi parce qu'on a abandonné une sorte de pratique permanente de la mobilisation et de la participation à la vie publique et à la vie collective. Voilà. Donc c'est pas quelque chose de récent. En revanche, ce qui est récent, c'est peut-être la déprime ou le sentiment, l'émotion et le sentiment personnel d'être face à des petites machines qui sont dans notre quotidien et face auxquelles en fait on ne parvient tout simplement pas tout à fait à résister. Voilà. Et d'être sollicité en permanence par des notifications, par des vérifications. J'ai le nombre de fois où on ouvre son appli Facebook dans la journée et pour se rendre compte qu'il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant. Mais si on accumulait, aujourd'hui, peut-être qu'on ouvre son téléphone entre 200, 250, 300 fois dans une journée.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que, bah, ce que disent les chercheurs, pour le coup, eux, c'est que c'est, en fait, chaque notification, like, commentaire, partage, c'est une dose de dopamine qu'on reçoit. Donc en fait, on va la chercher comme une drogue, finalement, parce que c'est, enfin, quelque part, c'est une forme de drogue. Donc c'est ça qui crée aussi cette surconnexion.
Mais pour une bonne raison, parce que en fait, on a besoin dans la vie d'être attentif à ce qui pourrait se passer. Mmh. Quand on conduit, encore heureux que un micro-événement ou un voyant lumineux sur le tableau de bord, etc., encore heureux que ça attire notre attention et que ça fonctionne. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas chez nous. C'est-à-dire que, encore heureux qu'on soit des êtres qui sont attentifs, mais dont on peut attirer l'attention. Voilà. La question, c'est, une fois qu'on sait ça, quels moyens, nous, on met en place pour réinstaller de la hiérarchie entre des événements qui nous paraissent importants et puis des notifications qui nous paraissent pas importantes. Mmh. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans une forme d'enfance de ça. Ouais. Dans l'utilisation. C'est-à-dire qu'on dit, ah, c'est formidable, regarde, j'ai un nouveau réseau, une nouvelle appli, un nouveau truc, je pourrais avoir des amis, des infos, etc. Et donc, on découvre à chaque fois une sorte de nouveau pays des merveilles, et on se dit, c'est formidable parce que ça augmente comme possibilité. Et tout est à égalité. C'est-à-dire que j'ai en même temps dans mon fil de notifs une alerte Facebook, une alerte du Figaro, mon compte en banque, un truc, un mail pour le boulot, etc. Et tout est à égalité. Mm-hmm. C'est-à-dire, du coup, le problème, c'est pas tellement le téléphone, c'est comment est-ce qu'à partir de mon téléphone, je peux recréer de la hiérarchie dans l'information. Pendant très longtemps, la hiérarchie, elle a été gérée à l'extérieur de moi, par des gens qui savaient. C'était les médias qui hiérarchisaient l'information, c'était les institutions qui hiérarchisaient les informations à délivrer à la population de façon intéressante, c'était les amis qui filtraient ou pas. Ouais. Bah aujourd'hui, la hiérarchie, elle nous incombe à nous. En fait, on peut voir le truc des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, on est hyper sollicité, ouais. Et de l'autre côté, il me semble que une vraie belle question philosophique, c'est comment reconstruire une responsabilité à l'égard de sa propre attention dans l'usage de ces technologies.
Et justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je le constate sur moi, qui adore lire, par exemple, j'ai du mal à me concentrer pour lire un bouquin, parce que, en fait, assez rapidement, si j'ai mon téléphone avec moi, je vais prendre mon téléphone pour vérifier ce qui se passe. Alors que j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone, donc j'essaye de résister. Et puis, comme je t'ai montré, on m'a offert ce livre qui s'appelle Unplug Every Day, donc je pense pas que ce soit la meilleure solution, mais c'est pour dire qu'il y a quand même déjà, il y a des bouquins qui sortent, donc c'est le constat d'une situation. Donc la situation, comme tu le disais, elle est constatée très clairement par tout le monde. Le problème, c'est qu'on n'a pas de solution aujourd'hui, et pourtant, alors bien sûr, en fonction des personnes, on a une maturité différente, mais il y a une maturité qui commence à être de plus en plus certaine face à ces notifications, à cette connexion permanente, à cette société de l'interruption permanente. Est-ce qu'il y a des réponses philosophiques à ça, ou est-ce que...
Je pense que la première réponse, c'est d'abord de se souvenir, peut-être, ou de rappeler que c'est un constat sur lequel, quand même, presque 2000 ans d'histoire de la philosophie est à peu près d'accord avec ça.
C'est que, c'est rassurant.
Voilà, c'est rassurant. Non, mais je veux dire, des stoïciens jusque, jusque plus récemment, même Sartre ou des choses comme ça, se mettent d'accord sur un truc simple, c'est que dans le monde, il y a deux types de choses. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, et des choses sur lesquelles on a du pouvoir. Mmh. Et parmi les choses sur lesquelles on a du pouvoir, c'est-à-dire qui dépendent de nous, il y a nos représentations. C'est-à-dire il y a l'attention que l'on porte à ce qui se passe dans notre esprit. Voilà. Et même encore là-dessus, on n'a pas tout pouvoir. Par exemple, il y a des pensées inconscientes, des désirs inconscients, des choses comme ça. Bon. Et puis il y a aussi aujourd'hui tout ce qu'on découvre avec les neurosciences et l'imagerie cérébrale, etc. N'empêche qu'on est doté d'un truc qui s'appelle la conscience, et qui est l'espace dans lequel je peux agir sur moi-même. Voilà. Et je peux, par exemple, prêter attention à. Je peux porter mon attention sur. Ou au contraire, je peux me désintéresser d'eux. Voilà. Et je pense qu'il faut... En fait, c'est une formidable invitation à redécouvrir cet espace-là, un espace qui est au sens strict spirituel, la vie de mon esprit, à redécouvrir cet espace-là et à faire des petits tests, à voir quel pouvoir je peux lui redonner. Et comment est-ce que je peux régler mon usage de ces machines qui sollicitent en permanence mon attention, qui sont un peu comme une sorte de distributeur de bonbons pour mon attention et mon esprit, mais dans lesquels j'aurais même pas besoin de mettre une pièce parce que ça vient tout seul. Mais au bout d'un moment, si je continue toujours de manger des bonbons, c'est pas que la faute de la machine, c'est aussi un petit peu de la mienne. Et moi, je pense qu'on peut regretter la situation d'aujourd'hui, et on peut aussi la considérer comme étant un formidable appel à se réinvestir. Et à redonner en fait du pouvoir, se redonner du pouvoir sur ses propres représentations, sur sa propre attention.
Donc en fait, ça doit être un processus conscient quelque part.
Oui, c'est-à-dire que face au changement du monde, la première réaction, c'est toujours de dire ah ça va trop vite, on ne sait pas où ça va en plus, et puis c'était mieux avant. Mmh. Voilà, une sorte de triptyque,
classique,
qui fait que on constate que le changement va trop vite, on a peur parce qu'on ne sait pas où il va, et on en vient à regretter ce qui était avant. Bon, ok, ça on connaît. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire. Et d'un côté, d'ailleurs, on entend ce genre de discours dire c'est fascinant, c'est-à-dire le monde qui nous est promis est un monde fascinant dans lequel on va pouvoir augmenter notre
on parle de l'humain augmenté d'ailleurs.
Voilà, on parle de l'humain augmenté, on parle de vie augmentée, de réel augmenté. Bon, très bien, ça c'est formidable. Et la question, c'est tout simplement qu'il faut que, à charge pour nous, d'inventer, entre guillemets, la vie qui va avec. Hein, comme,
pour reprendre un second publicitaire.
Voilà, pour reprendre un second qui va avec. Mais ça c'est formidable parce que, en un sens, il n'y a pas plus humain que d'inventer la vie qui va avec. C'est-à-dire, il y a un très beau texte de Rousseau dans lequel Rousseau explique que la différence qu'il y a entre les animaux et les hommes, c'est pas l'intelligence, c'est pas des tas de choses comme ça. Non, c'est la liberté. C'est-à-dire la capacité, non pas de s'émanciper totalement de la nature, mais de sélectionner, de choisir, de suspendre pendant un temps, voilà, de suspendre ses instincts pendant un temps, etc. Et en fait, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que cette vie connectée nous ouvre un horizon de liberté formidable. La question, et ça, comment dire, on y vient assez vite, hein, c'est que la liberté n'est pas simplement le fait de faire ce que l'on veut, mais d'assumer ses responsabilités dans un champ de possible.
Est-ce que tu crois, comme moi d'ailleurs, parce que moi je le pense, que une des formes du luxe aujourd'hui, ça va être la déconnexion et le temps, de manière générale, mais la déconnexion aussi.
Alors je pense que le temps, la maîtrise sur son temps, ça a toujours été une forme de luxe. Les citoyens grecs ne travaillaient pas, ils avaient des esclaves pour ça. L'aristocratie française, ancien régime, ne travaillait pas, ils avaient aussi des gens pour travailler à leur place, etc. Donc la maîtrise de son temps et le fait d'avoir un temps qui ne soit pas contaminé par le travail ou par la sollicitation en fait contraignante, ça je pense que ça a toujours été la marque du luxe. En revanche, je pense que ça va être un peu plus subtil. Je pense que la hiérarchie, elle va se recréer entre ceux qui seront, en un sens, qui seront noyés dans leur flux de notifications, d'informations, et donc dans une sorte de mobilisation permanente et de sollicitation permanente, et ceux qui auront appris, ou alors qui auront, pourquoi pas, téléchargé des applis qui leur permettront de le faire, à hiérarchiser, à sélectionner et à organiser leurs relations à ces machines. Voilà. C'est un peu la même chose sur la nourriture, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une junk food qui est très facilement accessible et qui est mauvaise pour la santé, etc. Et qui, malheureusement, fait des ravages. Et il y a ceux qui ont les moyens, et pas forcément d'ailleurs les moyens financiers, hein, mais ceux qui ont les moyens de, ou bien d'aller au marché, donc de cuisiner chez eux, ou bien d'être dans des circuits courts, etc., ou bien d'aller dans un restaurant qui est un peu différent, ou d'emmener au boulot un truc qu'ils ont fait chez eux et pas d'aller immédiatement acheter le truc qui se mange en marchant. Je pense que c'est la distinction, elle se fait plutôt là-dessus. C'est pas tellement sur le fait d'avoir du temps ou de pas en avoir, mais c'est le degré de maîtrise et la qualité de ce qu'on va pouvoir faire avec le temps qu'on a.
D'accord. Pour moi, il y a vraiment ce... C'est vrai que j'ai en tête cette idée de... Quand je... Si j'ai suffisamment d'argent, parce que c'est aussi une question d'argent, le luxe, quelque part. Enfin, pas que, d'ailleurs, c'est pas forcément une question d'argent, mais j'ai la sensation que j'ai ce luxe de pouvoir me déconnecter, de pas être chevillé à mes emails ou chevillé aux notifications, à la limite. Ça, c'est vraiment une décision personnelle que tu prends, mais chevillé aux emails pro, par exemple, c'est quelque chose qui est... Moi, je me souviens de manière assez claire avoir été en Thaïlande, mais il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a plus d'une dizaine d'années, où je voyais un mec avec un BlackBerry sur la plage, et je me suis dit, mais pauvre type, quoi. Enfin, à l'époque, je me disais, mais pauvre type, le mec part avec son téléphone de boulot en vacances. Enfin, faut vraiment être débile pour faire ça. Et aujourd'hui, je serais incapable de partir sans mon téléphone. Alors, pour Google Maps, certes, mais pas que pour Google Maps. Sans doute pour raconter ma vie sur Instagram Stories, sans doute pour rester connecté avec les gens, certainement pour pas m'ennuyer aussi quand je m'ennuie, parce que bah, du coup je pourrais aider la vie des autres. Et c'est intéressant de voir, je trouve, comment. Enfin, c'est marrant ce que tu dis, c'est-à-dire que tout le monde a ce constat, enfin plus ou moins sur ses propres usages et se dit ben merde.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce que je fais ? Et comment je m'en sors ? Et de l'autre côté, ben quelque part, donc ce que tu disais, c'est que c'est un processus conscient, donc c'est à toi de t'en sortir. Quelque part, c'est une vraie question philosophique de comment je re-hiérarchise. Et peut-être qu'il y a un business à faire sur la hiérarchisation de l'information dans ton smartphone. Mais est-ce que, enfin, je trouve qu'il y a vraiment une question sur comment moi je vais le gérer et comment. Enfin, oui, il y a une question. Enfin, pour moi, le luxe, il y a vraiment ça derrière. Enfin, il y a vraiment cette capacité à se déconnecter. C'est un peu brouillon, mais...
Non, en fait, je pense que ce autour de quoi on tourne, c'est aujourd'hui la sorte d'impératif auquel on est appelé par ce bouleversement anthropologique fondamental, enfin énorme, c'est le fait que nous avons à nous recomposer comme des sujets numériques. Mm-hmm. Voilà. Alors, il y a 2000 ans, en Grèce, ils ont inventé la démocratie, la vie politique, etc., et ils ont inventé la citoyenneté, donc... Il y a 2000 ans, on a fabriqué des sujets politiques. Bon. Et ça a continué de se développer jusqu'à aujourd'hui, etc. Ensuite, on a fabriqué, c'est l'époque de Descartes, je pense, donc je suis, on a fabriqué des sujets métaphysiques. Voilà, des sujets qui s'interrogent sur, en gros, ce qu'ils sont, qui ils sont, comment ils le sont, et le sens de leur vie, etc. Et ça continue encore aujourd'hui, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, on vit un bouleversement, alors je vais à gros traits, hein, mais qui est qu'on est dans la naissance d'un sujet numérique. Voilà. Et donc la question du sujet numérique, c'est pas tellement de savoir qui il est, ça, bon, voilà, il s'en souvient, etc. Mais c'est de savoir comment est-ce que ma subjectivité, mon identité, etc., n'est plus seulement dépendante de moi, mais dépend aussi des relations réelles, virtuelles, que je noue avec les autres, donc des interconnexions. Voilà. Le sujet numérique, c'est un sujet de relations. Et c'est un sujet de réseau. Et du coup, ça veut dire que si je suis un sujet de réseau, ça veut dire que les gens de mon réseau détiennent une partie de mon identité.
Bien sûr.
Et c'est pour ça, en fait, qu'on est tellement liés à nos affaires, à nos téléphones et à nos réseaux. C'est parce qu'on a, en fait, compris, sans tout à fait en avoir conscience encore maintenant, me semble-t-il, que nos followers, nos amis, nos réseaux, nos relations, etc., eh bien, détiennent une partie de ce que nous sommes, puisque nous nous présentons à eux, on leur dit, on se met en scène, on leur dit, regardez comme j'existe, entrez en relation avec moi, ils acceptent le contrat, ils acceptent le deal, et donc si tout d'un coup on fait une sorte de... on éteint tout, on se coupe de ça, on a l'impression de se couper d'une partie de soi-même. Mm-hmm. Voilà. Et donc moi je crois que le défi aujourd'hui, c'est de se repenser, là, hein, chacun peut faire ce petit exercice de philosophie pratique, c'est de se repenser comme un sujet numérique. C'est-à-dire, qui suis-je en tant que sujet numérique ? Et du coup, vient l'étape d'après, qui est comment se comporter comme sujet numérique. Pour reprendre le cas du gars qui va à la plage avec son téléphone de boulot, en un sens, pauvre type, oui, parce qu'il sans doute il se gâche une partie de ses vacances, et en un sens, on ne peut pas trop lui reprocher, parce que je pense que, collectivement, on n'est pas encore arrivé à une sorte d'art de vivre avec ces outils. Voilà. Moi, je pense que, de façon caricaturale, aujourd'hui, il y a un manuel de savoir-vivre à écrire sur ces outils, pas tellement pour l'étiquette, la bonne tenue, etc., mais pour que nous on se mette collectivement d'accord sur un certain nombre d'usages. Voilà. Je sais pas, mais aujourd'hui, par exemple, on fait un dîner avec des amis, ça paraîtrait absurde que quelqu'un se serve, je sais pas, directement dans le plat en premier, sans proposer aux autres, ou même se serve avec les doigts, quoi.
Bien sûr.
Bon, on a appris ça, on s'est civilisé là-dessus. Mm-hmm. Voilà. C'est le philosophe Norbert Elias, qui, sociologue Norbert Elias, qui explique comment est-ce que les sociétés de cour de l'Ancien Régime ont permis de civiliser la sauvagerie, la violence des grands seigneurs guerriers qui sont devenus en fait des courtisans. Mm-hmm. Voilà. La civilisation, elle passe à travers une codification et un étiquetage des comportements. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui un grand défi qui est le fait de civiliser nos usages, non seulement des téléphones, mais aussi de cette vie numérique, quoi, de cette vie connectée.
Et c'est le rôle de qui ? C'est le rôle des philosophes de faire ça ?
Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense que oui, je pense que alors pas que évidemment, hein, mais je pense que c'est il faut organiser une réflexion collective. Alors, il ne s'agit pas de dire que les philosophes sont les maîtres de la réflexion collective, mais simplement de remarquer qu'ils ont été des éléments importants au cours de l'histoire de ces moments de réflexion collective. Au XVIIIe, voilà, la réflexion autour du droit naturel, qui donne ensuite les droits de l'homme, par exemple, et ben, elle est animée par les philosophes. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, oui. En tout cas, il ne faut pas que les philosophes s'en désintéressent en disant « Non, ce n'est pas notre boulot, c'est le boulot, finalement, des GAFA. Des, » voilà, voilà. Il ne faut surtout pas s'en désintéresser, parce que précisément, l'enjeu n'est pas que technologique. L'enjeu, il est...
certainement pas technologique.
Voilà, il est éthique. Ça veut dire qu'il est moral, il est esthétique aussi, c'est-à-dire comment est-ce que nous sentons le monde différemment à travers ces écrans, et ces, voilà. Il est politique, évidemment, il est culturel, etc. Donc, bien sûr, les philosophes doivent s'en emparer, mais aussi, par exemple, les politiques doivent s'en emparer. Enfin, bon, il y a un secrétaire d'État à la vie numérique, par exemple, c'est bien une façon de reconnaître que cette vie numérique, elle a bien sûr des enjeux en termes de business, etc.
Bien sûr.
Mais, en un sens, elle doit aussi avoir des enjeux en termes de, tout simplement, bah, de santé, de morale, d'expérience. Voilà.
Génial. Merci beaucoup. Et alors, du coup, j'ai cette question que je pose à chaque fois à tout le monde. Mais, ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu aimerais claquer la porte aujourd'hui ?
Moi, j'aimerais claquer la porte à tous ces grincheux qui nous disent que cet Internet, cette vie numérique, etc., ça nous déshumanise. Voilà, que notre vie se réduit à un écran en deux dimensions et qu'on devient des robots parce qu'on ne fait que voilà. Moi, je pense au contraire que c'est une formidable occasion de réinventer voilà non seulement notre relation aux choses, aux objets, mais aux autres et au monde. Et donc voilà, moi je claque la porte à ceux qui grincent, enfin ceux qui sont grincheux, à ceux qui ont peur là-dessus, parce que je pense que c'est une formidable occasion de prendre ses responsabilités sur ces nouveaux usages et aussi sur le nouveau monde que ça dessine.
Super. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.